podcast La Première.
Oui.
Oui, oui.
A parte il fatto che bisogna vedere quando scade questi portodarmi. Comunque.
Tra le strade saracene, mille chiese ad altri tempi, ci si incontra tanta gente, non da vivere per niente.
Dis-moi. Par où dire?
Train 2 à Buffalo, New York.
35,
it's
all the way back
42.
42?
C'est un art. Par où dire?
La prison change.
Très agréable avec le long des étangs.
On appelle une maladie honteuse.
Vous allez où ? 11e.
Ces lieux nous parlent. Ingrid du bac Lemain qui nous fait voir Bruxelles par les yeux de François Skuyten. Elle a rencontré le dessinateur dans son atelier et puis dans les points phares de Bruxelles à ses yeux. La gare de Schaerbeek ou un musée du train sous sa conduite de scénographe verra bientôt le jour et puis au palais de justice surtout qui est pour lui le chef-d'œuvre maudit de Bruxelles, le chef-d'œuvre de l'architecte Poulart. Pascal Tison.
Je pense qu'on va commencer par là où on est, si vous pouviez me décrire votre atelier.
François Skuyten avec Ingrid Dubac-Lemincq.
On est tout en haut de votre maison, on est sous les toits de
ouais.
Votre maison de Schaerbeek.
Oui, c'est vrai que j'habite depuis 25 ans maintenant à Schaerbeek et dans cette maison que j'adore. C'est une maison typique, classique, bruxelloise, avec vraiment des particularités qui appartiennent vraiment à ces maisons, c'est-à-dire des pièces en enfilade. Enfin, toute une série de choses qui m'attachent à la qualité de ces maisons parce qu'elles sont très bien pensées, elles ont été très bien faites. Il y a eu de très beaux artisans en fait qui ont travaillé à cette époque, c'est-à-dire depuis 1890 jusqu'à la Première Guerre mondiale. On a vraiment un artisanat exceptionnel à Bruxelles. Après, ça va un peu se gâter. Mais là, c'est, je dirais, on fait peut-être parmi les plus belles maisons d'Europe. Et là, en 1911, c'est un architecte scarbécois, Franz Emmelzout, qui construit plusieurs maisons dans la rue, dans 3-4 styles différents. Un style Art Nouveau, un style un peu flamand, ma maison, un style un peu 1900. Enfin bon, il a décliné comme ça, la même année, 3-4 styles différents. Ceci montre bien le type d'architecte qu'on a à cette époque, qui a un vocabulaire assez varié, assez diversifié, et qui, suivant le propriétaire, peut comme ça donner des façades très différentes. Et il y a une maison Art Nouveau, donc à juste à côté de la mienne, qui est superbe, qui est vraiment magnifique, et qui n'a pas encore la couleur de châssis que je trouve adéquate, parce qu'il y a des petites erreurs qui vont se corriger, j'espère. Mais on a une qualité exceptionnelle. Et voilà mon chien qui arrive. Voilà.
Qui veut aussi dire quelque chose au micro.
Voilà, absolument. Absolument. Très, très, très.
Bonjour.
Qui vous a repéré. Oui, le chien, bon, le chien a une place importante dans.
Dans la maison.
Dans la maison, oui.
Il fait toute la maison parce qu'on est vraiment tout en haut des toits. Donc,
oui.
Il a fallu emprunter tous ces escaliers pour arriver
jusque
dans cette mansarde qui est aménagée en atelier.
Oui, l'avantage, donc, c'est que ça prend bien la lumière. C'est la lumière du nord. Vous voyez, il y a des stores qui permettent comme ça à chaque fois de réguler, d'arriver exactement la lumière idéale pour dessiner. Et vous savez, il n'y a rien de mieux que la lumière naturelle pour la couleur ou pour le dessin. C'est ce qu'il y a de plus parfait. Et donc, c'est un endroit très important pour moi parce que je passe tellement de temps ici à cette table de dessin. fait maintenant 40 ans que je publie. Justement, j'ai sorti le numéro de pilote. J'ai publié en mai 73, quoi, 1973.
Et c'était votre première bande dessinée qui est parue dans ce pilote.
Oui, j'avais 16 ans.
Et donc ça va faire vraiment 40 ans.
Oui, ça fait vraiment 40 ans. C'est pour ça que j'ai ressorti ça. J'ai ressorti ça par hasard. Et je me suis dit, j'ai retrouvé la date à l'intérieur du pilote. Et ça me faisait drôle de penser que je faisais ce métier depuis 40 ans.
Et cet atelier, est-ce que vous le concevez aussi comme un refuge, parfois, de se retrouver comme ça sous les toits et de revenir à la bande dessinée, parce que vous avez beaucoup d'activités aussi à côté de la bande dessinée?
Vous avez tout à fait raison, c'est un refuge. C'est le lieu où je me retrouve. Le travail d'auteur de BD est très, très laborieux, hein. C'est très long, ça demande beaucoup de discipline pour accumuler les heures comme ça, parce qu'il y a un temps presque incontournable, en tout cas en ce qui me concerne. Sur la table, et donc c'est vrai que ça, c'est l'encre, c'est ce qui permet de, c'est l'axe, je dirais. D'ailleurs, c'est vraiment, on est au-dessus de l'axe de la maison aussi, cette immense cage d'escalier qui structure la maison, qui est très belle d'ailleurs, parce qu'elle est comme une espèce de théâtre comme ça, général. Escalier qui est une immense place perdue en fait, hein. C'est très volumineux comme espace, et en même temps, c'est vraiment, je dirais, c'est la force tellurique presque de cette maison. Et donc je suis au bout de ce canal, je dirais.
Et donc vous venez ici, vous êtes à votre table de dessin. Je ne sais pas, vous avez une bibliothèque qui est belle. On voit beaucoup de livres d'art, des bandes dessinées peut-être. Qu'est-ce qu'il y a dans votre bibliothèque?
Il n'y a pas tellement de bandes dessinées, non. Il y a ce qui est ma source, c'est beaucoup de livres de photographie, de dessin, de peintre, d'architecture, de graphisme, de... Il y a de tout, quoi. Je déborde de livres. J'ai l'impression même que la maison va s'écrouler sur les livres, parce qu'à tous les étages, il y a des livres. À tous les étages, il y a des bibliothèques. Au sous-sol, c'est rempli de bibliothèques. Je ne sais plus où les mettre. Le livre, c'est vraiment... D'ailleurs, j'aime tellement les livres que je les dessine aussi. C'est-à-dire que dans mes fictions, il y a des livres géants. C'est la matrice un peu par excellence de mon imaginaire.
Et on retrouve beaucoup les bibliothèques, les archives aussi dans vos bandes dessinées, dans vos dessins.
Oui, tout à fait. Donc c'est l'envahissement est autant autour de moi que dans les propres dessins. Je dirais que c'est organique. Mais j'aime tellement les livres que j'en ai même fait parfois des... J'ai fait un décor d'opéra avec des livres, j'ai fait des scénographies aux expositions universelles qui commençaient en entrant dans un livre, en entrant dans les pages. Donc ça en devenait presque une obsession. Je suis en train un petit peu d'essayer de remettre ça à sa place, parce que je commence un peu à me calmer, mais il suffisait qu'on me lâche dans une bibliothèque, donc dans une librairie, j'étais complètement fou, quoi. Mes pauvres enfants ont souvent dû prendre sur leur dos des livres. Je les ai sans doute terrorisés. Mais c'était plus fort que moi, parce que voyez-vous, quand vous dessinez, vous avez besoin de vous nourrir de sources, Vous ne connaissez rien, en réalité. On ne connaît jamais rien. On a toujours besoin de s'appuyer. Un dessinateur, s'il ne peut pas vérifier par un ensemble de choses ce qu'il dessine, pour moi, je me sens perdu, quoi.
Ça veut dire que vous travaillez d'après nature, quelque part. Vous avez toujours quelque chose
devant
vous.
Oui, vous voyez, la table est très grande, souvent encombrée d'objets, de livres, de documents divers, parce que c'est ça qui permet que le dessin trouve un tout petit peu sa crédibilité.
On va revenir aux sources de votre inspiration. Dans votre enfance, vous avez été déjà très tôt, vous avez eu un apprentissage de l'art par votre père.
Oui, j'ai eu la chance d'avoir un père professeur. Enfin, il n'était pas, mais il était pour ses enfants. Un très bon professeur, c'est-à-dire que je crois qu'un professeur, d'ailleurs, qui n'est peut-être pas toujours un bon professeur pour ses enfants, mais là, comme il ne l'était pas, je dirais, comme il était architecte, il était un peintre un peu, qui aurait voulu être peintre, donc il était toujours en désir de plus peindre, il a fait passer à ses enfants tout son désir, tout son regard d'architecte peintre. Et bon, on était 8 dans la famille, j'étais un des derniers du second mariage, il a perdu sa première femme à la naissance du sixième enfant. Et alors du coup, je crois qu'il avait fait ses guerres. Les premiers enfants ont essuyé les premières guerres. Et donc moi, j'étais vraiment, je pense, assez désireux de prendre ce savoir. J'étais donc en totale symbiose avec ce regard qui qui m'a donné.
Il était architecte, mais il peignait aussi, oui. C'est ça, il était aussi oui. peintre.
Sa vie, c'était vraiment la peinture. Il a toujours voulu être peintre, mais il s'est vite rendu compte que nourrir une famille de 8 enfants, puis il y avait 2 grands-mères à la maison, il y avait des tas d'animaux, enfin, je ne vous raconte pas, c'était une arche de Noé, comme ça. C'était difficile, donc l'architecture était un métier qui permettait là d'envisager l'avenir pour sa famille. Et il l'a fait avec, je crois, pas mal de talent, avec aussi des erreurs dans les années 70. Comme beaucoup d'architectes et de Belges, pris dans la frénésie de cette espèce de miroir de la modernité, on s'est parfois laissé aller à beaucoup d'erreurs. Et il avait une vision sur Bruxelles assez parfois un petit peu radicale. Par contre, sur la peinture, sur le dessin, c'était un formidable professeur. Oui.
Et comment il vous a appris à peindre, à dessiner ?
Ah, mais c'était terrible. Vous savez, à la maison, le dimanche ou le samedi, il était hors de question de s'occuper de ses devoirs ou de ses leçons. Il fallait peindre, mais peindre comme Picasso, c'est-à-dire avec des papiers découpés, avec des collages, avec des outils différents. On travaillait sur la mémoire visuelle aussi, donc il nous montrait quelque chose. Et puis il l'enlevait, il fallait qu'on retrouve exactement ce qu'il avait en quelques secondes, ce qu'il nous avait montré en quelques secondes. Donc c'était vraiment un exercice permanent, des dégradés d'aquarelles, donc c'était une espèce de jeu aussi, et puis une initiation au regard. On découpait aussi dans des revues, des tableaux, on les organisait, il fallait les reconnaître. Donc tout était dirigé vers le domaine artistique, et il avait très peu d'intérêt pour d'autres choses. C'était vraiment très monomaniaque. Mais bon, alors ça n'a pas marché avec tous les enfants. Mais en ce qui me concerne, j'ai
ça a pris.
Oui, j'ai tout pris. Alors j'étais partagé entre mon père qui était comme
François Skeuten,
voilà, et les grands arts, et puis mon frère qui lui était fou de bande dessinée, complètement désireux lui de découvrir de Franquin, de montrer Jacobs, et donc cette espèce de fourche comme ça de voilà, j'ai été pris entre Franquin et Rembrandt, je dirais entre Hergé et Picasso.
Et comment ça se fait que vous avez tourné alors vers la BD et pas vers le dessin, vers la peinture, vers les grands arts, on va dire ?
Eh bien, je ne sais pas. Je crois d'abord que l'architecture me faisait vraiment peur. Il y avait déjà mon père, ma sœur, mon frère et mon beau-frère. Donc, je me suis dit, bon, de ce côté-là, je crois que c'est bon comme ça. Enfin, peut-être même que je ne me suis pas dit ça, mais toujours est-il que je n'ai pas eu envie de le faire parce que je les voyais aussi pris dans des contraintes auxquelles les architectes sont confrontés quotidiennement et que j'avais envie de m'évader. J'étais un enfant un peu, peut-être un peu timide, pas toujours bien dans sa peau. Et donc, dessiner, c'était comme ouvrir une porte vers l'imaginaire. Et naturellement, la bande dessinée, elle offrait ça. Et surtout en découvrant Spirou et Fantasio, Tintin, Sibyline, tout des... C'était magnifique, le début des années 60, la fin des années 50, la qualité de la bande dessinée en Belgique et en France est exceptionnelle, particulièrement en Belgique. On a juste après-guerre, on a des années là qui sont uniques au monde, je dirais. Bon, après, ça va se gâter. Parce que les gens oublient ça, mais c'est pas infini, quoi. Et là, je me suis tourné vers la France et avec la création de journaux comme Métal Hurlant, Pilote, j'ai publié d'abord Pilote et puis Métal Hurlant à suivre. Et tous ces journaux qui ouvraient la bande dessinée alors vers des espaces qui étaient tellement incroyables, quoi. Et par certains côtés, qui me ramenaient un peu vers mon père, qui, lui, ne voulait pas entendre parler de la bande dessinée. Mais où on pouvait brusquement peindre dans les cases. On pouvait y avoir une ambition d'auteur qu'il n'était pas si évident d'avoir. Quoi. Qu'en fait, pour être franc, Hergé et Franquin, c'est des très, très, très grands auteurs. Mais qui sont inscrits dans une tradition de bande dessinée populaire avec des personnages, des héros, mais qui ont une qualité, qui ont une exigence, qui ont une vision unique. Moi, je reste ébloui à chaque fois que j'ouvre un livre de Franquin ou d'Hergé ou de bien d'autres, ou de Marchereau ou de Tilleux. Je suis ébloui de voir tout ce qu'ils y ont mis, quoi. Ça m'émeut énormément. Je trouve que c'est rare de voir comme un métier, comme ce métier-là, était à ce point sous-estimé. Parce que vous savez, bon, je voyais bien comment mon père prenait ça, mais en fait, il représentait bien la façon dont les adultes regardaient la bande dessinée. Mais de voir comment ils ont, avec quel talent, avec quel niveau d'exigence, ils ont mené ce métier, pour moi, c'est vertigineux. Alors, on va commencer par la gare de Skarbek. C'est vraiment tout proche de chez moi et je crois beaucoup à l'hyperlocal. L'hyperlocal, c'est se battre pour sa rue, la maison d'à côté. Du coup, il y a la maison Autrique qui n'est pas très loin, qui est cette maison sur laquelle Benoît Peters et moi avons beaucoup travaillé. On travaille toujours beaucoup. C'est vraiment une maison symbolique de ce que peut représenter la qualité des maisons bruxelloises, c'est-à-dire ce charme, cette espèce de monde clos, très, très feutré, très travaillé. Il y a un charme de ces petits jardins, ces îlots intérieurs, ces façades toutes personnelles, enfin un ensemble de paramètres qui les rendent uniques. Et donc la proximité est quelque chose de très important, parce que je trouve que dans un monde comme le nôtre, c'est très important et très nécessaire de bien connaître ce qui vous entoure avant de... Pour moi, en parcourant ces rues, je trouve qu'on voyage énormément. On a une diversité de population, on a une histoire incroyable. Et donc cette gare de Skarbek est unique, parce que d'abord c'est la seule gare qui est encore qui a été préservée. Toutes les gares bruxelloises ont été démolies. Celle-là, elle est intacte. Elle a été faite en 1913. Elle a été commencée en 1913. En réalité, la guerre mondiale de 1914 va arrêter un peu. Elle va être seulement inaugurée dans les années 30. Mais elle est très très belle. Elle est vraiment dans son jus. Et elle va être l'entrée du futur Train World, qui est cet espace réservé au train, à l'histoire du train, au développement et à l'avenir aussi du ferroviaire, les enjeux du ferroviaire aujourd'hui. Donc, allez, on travaille maintenant depuis plusieurs mois, c'est vraiment les fondations. Ça a été un peu compliqué parce qu'on est sur du sable. Donc, il faut mettre des pieux, il faut enfoncer très profondément là, pour assurer la stabilité du bâtiment. Et alors, vous voyez une chose amusante. Donc, vous voyez cette petite maison là, au milieu de tout, hein ?
Oui, perdue en fait, là, dans le chantier.
Oui, c'était la maison du cheminot. Et le musée va se construire autour. Donc, elle va être totalement enveloppée par le Train World. Et ça, c'est vraiment des choses qui m'intéressent beaucoup. C'est que J'ai pas dû l'inventer. Elle était là et juste le plaisir était juste de l'écouter, de la faire parler. Et elle va vraiment être un des joyaux de ce Train World, parce qu'elle nous raconte une histoire qui est l'histoire vraiment de l'engagement des cheminots pour leur métier, la passion qu'ils ont pour leur métier. Alors, c'est un site très intéressant parce qu'on a une densité, évidemment, ferroviaire très importante à Skarbek. On a des ouvrages d'art intéressants, on a à peu près tout ce qui circule en Belgique circule ici. Donc, on va voir défiler énormément de la diversité, je dirais, de ce que la Belgique, pour l'instant, voit sur ses rails. Et vous savez, la Belgique a une histoire exceptionnelle. Hein. On l'oublie, mais on a été des très grands constructeurs, on a eu de très grands ingénieurs. Nagel Macaire, c'était liégeois, et c'est lui qui a créé cette extraordinaire histoire des wagons-lits. Donc on a une histoire d'une richesse formidable, et les Belges, bien sûr, l'ont oublié. Alors c'est une façon un petit peu de leur... qui retrouvent cette mémoire et qu'ils se rendent compte à quel point nous avons été pionniers, et nous le sommes encore, parce qu'on a encore des formidables entreprises qui sont très innovantes dans le domaine du ferroviaire. Et puis c'est une façon de parler aussi de l'avenir, et de montrer des machines exceptionnelles du passé, du présent et de l'avenir. On aura des futurs trains qui vont circuler, mais on aura aussi des machines qui ont été parmi les plus belles et les plus rapides du monde, construites ici en Belgique. Et donc cette espèce de monde ferroviaire, ben voilà, sera développé ici, mais très loin, ça va, c'est un immense bâtiment.
Tout le long des rails, là.
Oui, tout le long des rails, avec une scénographie. Moi, j'ai appelé ça un opéra ferroviaire, pour casser le mot musée, parce que j'aime bien les musées, mais ici, il s'agit plutôt de faire parler, de plonger le spectateur dans cet univers, dans cette richesse, dans cette folie, dans cette extraordinaire aventure. Et pour ça, il faut utiliser tous les moyens d'aujourd'hui, la lumière, le son, les effets spéciaux. Et j'ai la chance d'avoir les meilleurs acteurs, parce que ces machines sont à tomber à l'envers. En tant que dessinateur, évidemment, j'aurais difficile à ne pas être sensible à cet aspect.
Il y a une locomotive en particulier,
oui,
qui vous a beaucoup inspiré, récemment,
voilà.
À laquelle vous avez consacré un album, La Douce.
Voilà, et c'est parce que justement, je travaillais sur le Train World, et de fil en aiguille, tellement pris par le sujet, c'est devenu un album de bande dessinée. Et puis, rencontrer ces gens, ces passionnés, ces fous furieux qui sont parfois dans des dépôts comme ça au fin fond de la Belgique en train de restaurer des machines, c'est très puissant comme confrontation. Et on fait des récits qui ne demandent qu'à naître à chaque fois. C'est des très beaux personnages. C'est le rôle aussi du Train World d'ailleurs, c'est d'essayer de capter, de relier toutes les passions qu'il y a autour de ce sujet. En fait, il y a énormément de gens, entre les amateurs de trains électriques miniatures, entre les collectionneurs de journaux, de ceci, de cela. Enfin, il y a comme ça, un peu comme des belles au bois dormant, à travers le pays, ces passionnés qui ne demandent qu'à trouver un lieu qui réunisse un peu. Il n'y a jamais eu vraiment de musée à la hauteur de notre histoire en Belgique. On a un petit musée à la gare du Nord, qui était comme une espèce d'alibi. Ça a mis du temps à sortir, mais ça y est, vous voyez, vous confirmez.
ça prend forme, disons, oui. Je ne peux pas encore dire ça.
Non,
mais
vous voyez qu'ils sont en train de travailler, il y a quand même du monde, il y a du béton qui coule. Parce que chaque fois que j'y vais, je me dis, mais c'est pas vrai, ça y est. C'est parce que c'était tellement, en Belgique, tout est tellement long, tout est tellement difficile. À chaque fois, je me dis, mais non, on n'y arrivera pas. Il y a des gens qui vont nous siffler la fin de la récréation en nous disant non, attendez, là c'est pas sérieux, c'est la crise, vous rendez pas compte, il y a des problèmes partout, les trains sont en retard, on va pas commencer à mettre de l'argent dans un c'est pas sérieux. Donc à tout moment j'attendais le coup de sifflet. Bien dégueulasse aujourd'hui, un vrai temps belge.
un crachin.
Là en face de nous, on a la maison communale de Scarbeck.
Juste en face de la gare, donc il y a une avenue.
C'est l'axe.
Qui relie.
D'ailleurs, c'est une des choses qui est très belle, c'est de sentir comme cette gare est inscrite dans la ville. Toutes les rues qui convergent, le parc qui descend, hein, vous savez, on a pris ce parc qui descend vers cette gare, et le système d'étoiles des rues qui part de cette gare. Et ça me plaît énormément, parce qu'on a pas seulement une très belle gare, mais on a une configuration urbanistique exemplaire sur l'importance et le rôle que les gares ont joué. Et donc ici, on a un très très beau plan, effectivement, où de la gare, bien sûr, on est dans l'axe de la maison communale, qui elle-même est dans l'axe de l'église Sainte-Marie, et là, on est dans l'axe de la rue Royale, qui nous mène jusqu'au palais de justice.
C'est vraiment la ligne.
Voilà.
La ligne.
Voilà, donc vous voyez ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de hasard, et c'est un grand plaisir que d'être dans cet axe. Ce qui est magnifique avec le temps, c'est de se rendre compte de ces évidences là. Comme les villes ont tellement de couches et de sous-couches, quelquefois elles peuvent sembler brouillées. Elles peuvent sembler un peu confuses. un peu pas très lisible. Et Bruxelles, on peut dire que dans le genre, c'est pas mal.
Hein, parce... Particulièrement, on va dire, chaotique ou brouillé au niveau urbanistique.
Et voilà. Mais en fait, quand on prend le temps, quand on commence vraiment à l'aimer, on voit sortir ces lignes, on voit sortir ces forces. Et quand on s'intéresse à son histoire, alors c'est un éblouissement, évidemment. Parce que c'est une ville qui a été traversée de visions, évidemment, de visions contradictoires, de visions parfois destructives. C'est incontestable, on n'a pas eu besoin de guerre pour y arriver, nous. on a fait sans ça. Mais on sent aussi une ville qui a traversé les siècles avec comme ça ces chocs. Et ça m'intéresse beaucoup parce que ça nous permet de comprendre. C'est pas une ville sacrée, c'est pas une ville musée, Bruxelles. C'est une ville vraiment qui a reçu à chaque fois son temps avec tous les dommages et tous les avantages. Il ne faut pas seulement en regarder les dommages. Elle a aussi capté des beautés, des fulgurances. Et ça nous oblige à savoir regarder. C'est une ville qui nous oblige à regarder peut-être...
Avec... C'est plus qu'une autre, non ? Parce que c'est une ville qu'on met du temps à aimer ou à trouver belle.
Exactement, on met du temps. On doit apprendre. Alors naturellement, on va aller vers le palais de justice. C'est quand même...
on est obligé.
Ah oui. On est... Surtout aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on se bat. Mais là, c'est un chantier. Ça va, je le vivrai sans doute pas. Ça dépassera peut-être. La fin sera peut-être pour mes enfants. Mais parce que là, il y a un danger réel. C'est que ce bâtiment, heureusement, maintenant, les choses ont l'air un peu de se calmer. Mais à un moment donné, on envisageait même de lui enlever sa fonction de justice et d'en faire comme ça une espèce de bâtiment voué à des magasins ou à des casinos, je ne sais à quelle folie. Heureusement, maintenant, il y a tout un groupe d'avocats, de juges, de gens attachés, je dirais, à ce bâtiment, à cette histoire. On essaye de trouver la façon de préserver l'identité et surtout redonner à voir la qualité de ce bâtiment. Parce qu'en fait, il est enfermé dans cet échafaudage qui est là depuis 30 ans, qui l'emprisonne et qui en fait le sépare des Bruxellois. Parce que Bruxellois ont le sentiment que c'est un monstre prisonnier. Ils ne le voient plus. On a difficile à en saisir la beauté.
Il est en chantier permanent. On pourrait presque dire que c'est presque l'image même de Bruxelles qui est toujours en chantier. C'est incroyable. Ici, le nombre de grues qu'il y a, le nombre d'échafaudages, le nombre de trottoirs qui sont refaits. C'est une ville, qui est perpétuellement en chantier.
Oui, c'est une ville en chantier, mais le palais, lui, par contre, on a mis un échafaudage, mais on n'y fait rien. Donc ça, c'est un peu là où je trouve que c'est douloureux. On a construit des palais de justice à Anvers, à Namur, dans des tas d'endroits, mais on n'a pas été capable rien que de maintenir l'état, parce qu'en fait, ce bâtiment, on l'a laissé vraiment, on l'a laissé pourrir, quoi. Donc, il a simplement une crise de maladie que tout bâtiment ancien aurait, hein, ni pire, ni certainement pas pire que d'autres. On a, je crois même, exagéré les maladies de ce bâtiment, qui effectivement a un certain nombre de difficultés, mais qui ne sont pas insurmontables. Donc c'est typique de l'irresponsabilité, je dirais. Et parfois l'État s'est très bien joué avec ça, enfin aussi pris dans ses contradictions, dans ses difficultés de gestion. Et alors voilà, on est devant ce monstre de pierre qui effectivement représente bien les contradictions de cette ville et de ce pays. C'est un emblème. Il est tellement emblématique de nos folies, de nos... C'est ça qui le rend si attachant.
Et d'ailleurs, c'est un emblème de Bruxelles que vous avez réinterprété de nombreuses fois dans vos dessins, dans vos bandes dessinées. Il vous fascine d'une certaine manière ?
Il me fascine, et là je m'y réattaque encore. Vous allez voir, je vous promets quelques surprises, parce que je n'arrive pas à m'en détacher. Ce bâtiment me hante depuis le début. J'y reviens inlassablement, je le redessine. Et alors, l'avantage quand on dessine un bâtiment, c'est que quand on apprend vraiment à le dessiner sous toutes ses coutures, je dirais, on entre dans son intimité et dans l'intimité de son concepteur. Parce qu'on est, sur ses traces, on est dans ses lignes. On retrouve ça, ce qui lui a, les rythmes, la structure qui a été à l'origine de sa conception. Ensemble, il va falloir retrouver le goût de la ville, et urgemment, parce qu'on peut, toutes les grandes autoroutes qui mènent à Bruxelles sont totalement bloquées. Donc on va, et ça me plaît énormément de savoir que c'est fini. C'est fini l'espèce de dédain, l'espèce de... Je prends la ville quand j'en ai envie pour travailler, pour aller au spectacle, pour me divertir, et puis je la jette le soir et le week-end quand je veux retrouver la verdure et le calme, la quiétude des campagnes. Ben ça sera plus possible. Donc on va devoir travailler avec cette idée que la ville va faire partie de nous, elle est un enjeu incontournable. Et il va falloir la rendre plus agréable à vivre encore.
On peut y rentrer, hein?
Oui, je sais. Mais on va pas y rentrer, on va aller dans les... Vous allez voir, on va faire plein de choses. En fait, j'aime beaucoup les endroits où on est à l'extérieur et à l'intérieur. C'est-à-dire... C'est un bâtiment assez exceptionnel dans le sens où 70% de son espace est vide et inutile. Ça, c'est quand même, pour moi, le luxe suprême. Arriver à faire en sorte qu'il n'y ait que seulement 30% d'utile, c'est quand même avoir une vision très ambitieuse de la théâtralité du palais. En fait, c'est ça, c'est qu'il a voulu avant tout faire une extraordinaire mise en scène. Et là, on est dans un espace que j'aime beaucoup, qui est un espace, que je dis intérieur-extérieur, puisque, vous voyez, on n'est pas à l'intérieur, mais en même temps...
Donc il y a un plafond, on est couvert, mais il y a des grandes colonnes qui ouvrent.
Exactement. On va monter, on va prendre l'escalier, et c'est un espace absolument sublime, ici. Ouvert à tout le monde, bien sûr. Avec cet immense escalier. On ne sait pas très bien la fonction exacte et pourquoi il a fait un espace aussi grand avec des escaliers aussi importants qui ne mènent en fait que... Je ne sais pas trop pourquoi on aurait utilisé ces escaliers. Mais on a la salle des pas perdus qui, elle, est beaucoup plus enfoncée dans le bâtiment. Et donc voilà, cette espèce d'entrée en scène, de remarquable entrée en scène, avec un enfilade de colonnes, un niveau de hauteur déjà vertigineux. Voilà, 20 ans de travaux, 20 ans qui ont ruiné les caisses de la ville, évidemment. Ça a été un chantier très, très difficile, Poulart ne voulant pas donner les plans, évidemment. Donc le combat a été permanent entre Poulart, la ville, les entreprises... Et c'est ça qui est passionnant dans cette histoire, c'est l'étrangeté de ce personnage, qui est franc-maçon, qui cultive le secret, qui a donc l'obsession d'inscrire au cœur même du plan du palais, les signes maçonniques, des tas de choses qui sont au cœur, je dirais, de sa philosophie, de son esprit. Et ça fait un bâtiment unique, je dirais, hanté par la folie de son créateur. Il ne verra pas la fin du chantier. Il va mourir, je crois, avant. Et donc, on construira la coupole, quelque chose de beaucoup plus consensuel, pour remplacer ce projet de pyramide un peu trop... exprimant un peu trop sa philosophie.
Le personnage, oui, de ce Joseph Poulart, l'architecte du palais de justice, il est aussi assez mystérieux. On sait peu de choses sur lui, non ?
On sait très très peu de choses sur lui. On a une vague, on a ce buste. D'ailleurs, déjà, maintenant, on lui a cassé le nez, là. C'est vraiment, vraiment dommage. Mais sinon, on a très peu de choses. Il n'y a pas de portrait, pas de photos. Enfin, on aurait pu avoir toute première photographie à la fin de sa vie, mais ce n'est pas le cas. Et donc, on est devant un personnage qui a un peu fui. On savait qu'il allait souvent à Paris. Enfin bon, il a abandonné à peu près tous ses chantiers pour se consacrer uniquement au palais de justice. Donc, il a considéré que c'était une œuvre pour lui essentielle, fondamentale. Il a arrêté l'église de Laeken. Et voilà, il s'est consacré pendant 20 ans à ce bâtiment sans le terminer. Donc, c'est tragique, fantastique, c'est romanesque, évidemment.
Parce que c'est un personnage qui est aussi présent dans vos albums. Le palais de justice, oui. Ce palais des trois pouvoirs, vous l'appelez le palais des trois pouvoirs. Oui. Dans votre film, le dossier B.
Exactement. Donc, ah oui, il hante nos albums. Je crois qu'on se rendra compte un jour à quel point il est fabuleux, il est exceptionnel. Maintenant, je dirais que la presse le montre un peu comme un bâtiment ingérable, comme un bâtiment qui est en plus manque de sécurité. Enfin, on le stigmatise de beaucoup de défauts. On n'en voit pas encore assez la richesse, la beauté, la force, tout son mystère. Mais ça viendra. Vous savez, un jour, il renaîtra de... On enlèvera cette espèce de monstre de fer qui l'enferme, et alors là, on en verra toutes les qualités et toutes les potentialités. Parce qu'en fait, vous allez voir, on va tourner autour, mais il est très profondément inscrit dans la ville, et l'idée est de permettre que ces fondations soient ouvertes au public avec dans des activités culturelles ou de restaurants ou de choses comme ça. Et donc, il y a un projet de double fonction. Lui garder une fonction judiciaire, mais aussi lui permettre de s'ouvrir à d'autres projets, faire une meilleure circulation du haut et du bas de la ville. L'ascenseur, pour moi, est vraiment un échec en termes d'architecture et d'intégration.
Oui, parce qu'ici, on est donc dans le haut de la ville, on poursuivrait vers l'avenue Louise, si on allait à notre gauche. Et à droite, on a un magnifique panorama sur la ville de Bruxelles.
Et sur les Marolles.
Sur les Marolles, sur le quartier populaire des Marolles.
Voilà, exactement.
Et donc, c'est le bas de la ville. Donc là, c'est vrai, on est haut.
Voilà, on est
haut. Au niveau du palais de justice.
Et d'ailleurs, vous voyez, on va aller vers l'endroit qui était normalement la véritable entrée du palais. Puisque ce qui se passait, c'est que... Il avait prévu un immense escalier donc, qui aurait traversé toutes les Marolles. Et c'est là, c'est par cet endroit-là qu'on serait entré. Vous imaginez le nombre de marches qu'aurait dû franchir.
Parce qu'il y a quand même un dénivelé, là.
Donc là, il utilisait cette dénivelé pour... Enfin, c'était un formidable scénographe. Hein. Là, vous savez, comme metteur en scène, je vois difficilement mieux. La salle n'est pas perdue d'ailleurs, est d'une vertigineuse. Hein. C'est une des plus hautes salles d'Europe. Hein. Je crois que la concurrence est le Vatican. Oui, donc c'est... Ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est qu'en fait, il faut savoir que dans la rue qui descend là, et vers le Sablon, et ben en fait, Edgar Pierre Jacobs est né, le créateur de Blake et Mortimer. Alors quand on sait que très vite, il va. Donc, il est né à l'ombre du palais de justice. Et quand on sait qu'après, il va faire la grande pyramide, ne me dites pas qu'il n'a pas trouvé dans le mythe de la grande pyramide, dans le mythe de Khéops, évidemment, un écho au palais de justice. Un enfant qui grandit comme ça, à côté de cette formidable monstre de pierre, c'est sûr que...
C'est impressionnant aussi quand même. Hein.
Oui, c'est très impressionnant. C'est très très impressionnant. Et moi, je peux y retourner. Et j'adore aussi aller dans les Marolles et voir comment il apparaît et disparaît à travers les ruelles des Marolles. Quand vous êtes en contrebas comme ça, vous le voyez comme une espèce de figure tutélaire comme ça qui domine et qui au vu de votre regard joue avec les apparitions et la disparition.
Est-ce qu'on descend dans les Marolles ?
On va descendre dans les Marolles, très bien. Ce qui est amusant dans cette ville, évidemment, c'est ces changements de hauteur, de toutes ces brisures, ces cassures, la jonction Nord-Midi aussi, où on a en fait relié la gare du Midi à la gare du Nord, le couvrement de la Seine, tous ces traumatismes tous ces chocs qui ont été comme ça donnés à la ville, à la cohérence de la ville. C'était un peu inévitable, hein, elle n'avait pas la structure que pour résister. Donc, elle a pris plusieurs chocs d'affilée, une série de chocs. Parce qu'en fait, on a trop souvent tendance à penser que la ville s'est modifiée dans les années 50-60 avec l'automobile. Mais en réalité, l'histoire est beaucoup plus ancienne.
Ça commence donc mi-19e, déjà avec ces grands travaux.
Par certains côtés. Le couvrement de la Seine aussi est particulièrement préjudiciable. On aurait pu trouver d'autres techniques pour assainir la Seine. Et on prend, évidemment, c'est là où c'est intéressant, on prend la solution la plus radicale. Celle de couvrir et donc d'enfermer, transformer la Seine en un égout. Vous imaginez la violence. Alors c'est sûr qu'elle était, on dit qu'elle était porteuse de miasmes, de maladies, de choses comme ça. Mais il y a des tas de villes qui ont trouvé des solutions. Avec déjà des stations d'épuration, avec des façons de... Alors elle avait très peu de flux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle était un peu stagnante. Mais là, on pouvait... Là aussi, il y avait des techniques. Et bon, ils ont de nouveau la promotion immobilière. En couvrant la Seine, on pouvait... On démolissait, et on pouvait construire. D'ailleurs, il y a des tas de boulevards qui se sont créés au-dessus de ce couvrement. Bon, voilà. Moi, ce qui m'énerve, c'est de voir cet ascenseur...
Il a un petit côté un peu futuriste raté.
Oui, voilà, le futurisme raté. Ben, c'est très bien, ça résume parfaitement certains projets. Non, mais surtout, c'est peu respectueux. C'est peu respectueux de... Moi, je trouve que l'idée d'un ascenseur était une très bonne idée, mais il faut malgré tout s'accorder. La modernité, c'est pas obligatoirement l'arrogance. La modernité, c'est de s'inscrire avec des techniques, avec un regard contemporain. Dieu sait si c'est absolument nécessaire, mais avec un respect. Essayer de s'insérer, essayer de comprendre la cohérence. Et ça, c'est une réelle difficulté.
Et qu'est-ce que vous trouvez maintenant arrogant dans cet ascenseur qui monte et qui descend, enfin, qui relie le bas et le haut de la ville, les Marolles et le niveau du palais de justice?
Moi, je crois qu'on pouvait simplement, au niveau architecture, trouver une façon de le faire plus simplement, plus modestement, qui cohabite mieux avec l'environnement. Voilà, il y avait des solutions, je ne sais pas lesquelles. Peut-être que j'aurais fait quelque chose d'incliné. J'aurais pu vous le dessiner, hein, pour faire une tentative, mais je ne suis pas architecte. Je ne veux pas avoir cette responsabilité, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile. Je me mets à leur place aussi, hein, Je comprends bien, en plus, l'équation économique qu'ils ont dû résoudre. Je ne leur en veux pas, d'ailleurs. Mais il manque une culture de la ville. Et Bruxelles n'a pas développé une culture non plus d'architecture. On n'a pas exactement, comme ailleurs, une qualité architecturale aujourd'hui. Il y a des architectes qui font du bon travail. Je trouve qu'il y en a des... On devrait d'ailleurs plus les valoriser, mais globalement, on n'a pas réussi à avoir des emblèmes porteurs de la qualité qu'on est en droit d'exiger pour une capitale européenne. Je trouve qu'il y a d'autres villes autour de nous qui ont réussi à un niveau supérieur. Donc ça, c'est un petit peu agaçant. On se demande pourquoi.
Surtout qu'il y a une histoire, justement, de l'architecture à Bruxelles qui est particulièrement...
Oui.
Particulièrement belle et riche.
Mais oui. Ben oui,
on ne comprend pas comment, après l'art nouveau, l'art déco, c'est tombé dans les oubliettes.
Oui, exactement.
Et comme vous dessinez beaucoup les villes, vous avez dessiné beaucoup les villes et les architectures, qu'est-ce qui vous plaît dedans, mais est-ce que vous avez l'impression d'en avoir fait le tour ou jamais? Qu'est-ce qui vous inspire dans le fait de dessiner les villes ou de dessiner le...
Ah, moi, j'en ai jamais fait le tour. Alors ça, c'est une chose que... Une ville, c'est vraiment un ensemble. Bruxelles, j'en ai jamais fait le tour. J'apprends toujours des tas de choses. J'ai toujours du plaisir à entendre des gens me raconter des tas d'aspects de son histoire, de ses personnages, des gens qui ont vécu. Parce qu'une ville, c'est une accumulation, en fait, de vie. Et donc là, il y a toujours tellement de choses à apprendre. Et c'est tellement fascinant, d'ailleurs.
c'est infini. Hein.
Mais pour vous, dessiner la ville, c'est dans vos dessins, dans vos albums, c'est le support d'un récit ou c'est vous avez plaisir à dessiner en tant que tel, la ville ?
J'ai pas spécialement de plaisir à dessiner l'architecture pour l'architecture. Hein. S'il n'y a pas un enjeu narratif, s'il n'y a pas un enjeu de personnage, de situation fantastique, ça m'ennuie. Donc, je ne suis pas là pour vous faire une photographie de l'architecture de Bruxelles. Ça, c'est vraiment le dernier de mes soucis. Non, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de saisir une dimension cachée, une dimension invisible. Parce qu'en fait, le dessin, il est là pour capter quelque chose que le regard ne prend pas tout de suite ou que la photographie ne sait pas prendre. Et c'est très difficile, d'ailleurs, de voir qu'est-ce que le dessin peut apporter. Qu'est-ce qu'on peut amener ? Quelle est la valeur ajoutée, en gros ? Il y a des fois où je me dis, ben, je ne peux rien faire. Je n'ai pas trouvé, je n'ai pas capté ce qui fait qu'en dessin, ça va prendre son sens. D'ailleurs, c'est un peu parfois à la bande dessinée comme ça aussi. Il y a des bandes dessinées, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça en bande dessinée ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait un film ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait, je ne sais pas moi, un jeu vidéo ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait un dessin animé ? Pourquoi c'est de la bande dessinée ? Donc, il y a toujours l'idée de faire en sorte d'être au cœur du médium. C'est toucher un petit peu ce qui fait qu'on se dit, ah, alors, ça, c'est vraiment, vraiment de la bande dessinée. Ça tire profit de cet étrange mélange de dessins, de textes, espèce d'alchimie un peu improbable. Et quelquefois, on ne le touche pas, quoi. Quelquefois, on est trop du côté de l'illustration, trop du côté... Et c'est pour ça qu'on revient toujours au maître. C'est parce que ceux-là, ils ont quand même Hergé. Tintin, c'est profondément une bande dessinée. Je reviens toujours à cette phrase de Victor Hugo qui dit « L'avenir est une porte, le passé en est la clé. » Ça nous montre bien que c'est par la connaissance de notre histoire qu'on peut arriver à voir, à cerner notre avenir, à projeter notre avenir. Si on n'a pas cette capacité de compréhension de notre histoire, des enjeux de notre histoire, on aura difficile à comprendre les enjeux de demain.
Et le présent, est-ce que ça vous intéresse de représenter le présent ?
J'espère que nos histoires témoignent du présent. Mais le dessiner, dessiner les voitures d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que je suis toujours le mieux placé. Je n'ai pas beaucoup de recul. Que pour, en fait, l'avantage, comme pour l'avenir, j'ai du recul. Et le passé aussi, mais le présent. Elle est belle, cette école. Hein.
Oui, c'est l'école de la Cato, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est vraiment une très, très bonne... Ils l'ont bien rénovée. Ils l'ont fait ressortir tout son travail de briques et de sculptures et tout. Elle est superbe. J'adore ça, un petit peu en contrebas du palais de justice. C'est vraiment une très belle situation. Et là, on le voit sans échafaudage, regardez, avec la coupole qui apparaît un petit peu juste à la limite de la toiture. C'est très beau.
C'était Françoise Keuten qui nous prêtait ses yeux pour voir Bruxelles et le palais de justice qui l'enchante. Il était accompagné d'Ingrid Dubac-Leminck qui signait cette réalisation. Très belle soirée à vous sur la première. Et un petit voyage en Bretagne vous est proposé ce dimanche dans Eldoradio. Très belle soirée à vous sur la première.
tous les jours de la semaine, entre 22 et 23 heures.
Oui.
Oui, oui.
La première.